Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Longtemps majoritaires au Moyen-Orient, les chrétiens ne forment plus qu'une minorité morcelée depuis l'avènement de l'islam, le génocide arménien, l'exode palestinien et les récentes guerres d'Irak et de Syrie. Ceux qui restent sur leur terre ancestrale sont très attachés à leur rite liturgique particulier et à leur tradition locale. Une communauté hétéroclite dans laquelle il n'est pas toujours facile de se retrouver.
Orient Hebdo sur RFI.
Jean-Michel Cadiot, bonjour.
Bonjour.
Longtemps journaliste au Proche-Orient, vous publiez fort à propos ce petit lexique pour comprendre les chrétiens d'Orient aux éditions Éric Bonnier. Il est vrai que les églises sont nombreuses, éparpillées, presque localisées, contrairement à l'église de Rome, unie, en tout cas au moins jusqu'à l'avènement du protestantisme. Comment expliquer cette désunion, Jean-Michel Cadiot ?
Cette désunion, elle est ancienne, puisqu'elle date des tout premiers conciles, enfin du troisième concile. Pour des raisons théologiques, linguistiques, politiques, des chrétiens se sont séparés. Mais tous ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, catholiques, orthodoxes, ils reconnaissent tout de même, de la même façon, le Dieu en trois personnes, le Dieu trinitaire, et ils ont les mêmes credos.
Votre livre est un lexique. Il se présente donc comme un index avec des mots référencés de A à Z. Alors, par exemple, à la lettre A, on trouve Assyrien, mais Assyrien, c'est à la fois un peuple et une religion.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu donc la Syrie, qui a été en Mésopotamie une des très grandes civilisations. Et c'est au sein de ce peuple assyrien qui subsiste aujourd'hui, enfin beaucoup de gens s'en réclament, qu'est née une des grandes écoles théologiques, un des grands rites de l'Église, celui des Nestoriens, voilà, qui est maintenant séparé d'ailleurs entre catholiques et non-catholiques.
Dont nous parlerons plus tard, les Nestoriens. C'est comme calendrier. Les chrétiens orientaux ont-ils le même calendrier que les chrétiens occidentaux ?
Presque tous ont le même calendrier. Tous les catholiques, en tout cas, bien sûr, hein, le calendrier grégorien. Quelques églises orthodoxes, comme l'église d'Antioche, de rares églises conservent l'ancien calendrier romain.
Alors, c'est encore avec cette entrée chiite, quel rapport avec les chrétiens ?
La population chiite a toujours vécu avec des chrétiens. Il y a toujours des chrétiens dans les pays majoritairement chiites, comme aujourd'hui on peut dire l'Iran, qui était un pays où le christianisme était très important pendant des siècles. Il y a l'Iran, il y a l'Irak, bien sûr, et le Liban, par exemple, où ils ont toujours coexisté. Et il y a des points communs. De quoi deviennent-ils ? C'est l'histoire qui peut le dire. Par exemple, le fait qu'il y ait un clergé.
Alors, à la lettre D, plusieurs entrées, par exemple, dimitude. Qu'est-ce que c'est ?
Dimitude, c'est le régime auquel étaient soumis les gens du livre, au sens très large, sous les califes. Alors, on dit que c'est Omar Ier, non, c'est plutôt Omar II, semble-t-il, qui a institué ce régime dans lequel les chrétiens étaient à la fois protégés, mais aussi étaient tout de même des citoyens de seconde zone, n'avaient pas accès à certains, avec des variantes, bien sûr, et ce régime a été aboli. Il a été aboli à la fin de l'Empire ottoman.
Et ça concernait donc les chrétiens, mais aussi les juifs. Et ces derniers devaient payer un impôt particulier, c'est ça ?
Voilà, les éates. Mais ça concernait les juifs, absolument. Ça concernait les zoroastriens, l'ancienne religion perse. Ça concernait les sabéens, qui sont les disciples de Jean-Baptiste, qui y en a toujours en Irak et en Iran. Et également les hindous en Inde, par moment.
Comme école théologique, combien y en a-t-il en Orient ?
Alors, c'est plutôt pour le passé que j'applique cela. Il y en avait trois grandes. Il y avait Antioche et Alexandrie, qui étaient les deux pôles de réflexion des plus grands théologiens, qui étaient toujours en compétition, en concurrence l'un avec l'autre. Et il y avait aussi dans ce que j'appelle l'église de Perse, c'est-à-dire les Nestoriens, il y avait Édesse et Nisibe, qui étaient les deux grands pôles aussi universitaires et de réflexion. Toutes ces écoles ayant donné de très, très grands saints à l'église.
F comme Florence. Alors là, nous avons affaire à un concile qui voulait regrouper les églises d'Orient et d'Occident, mais ça n'a pas marché.
Oui, il y a eu deux tentatives à Lyon au XIIIe siècle et à Florence, Ferrare, Rome, parce que c'était le moment où l'Église était en crise. Il y a eu ce concile de Florence, Ferrare, qui a réuni normalement les églises au moment où les orientaux, enfin les Byzance ou Constantinople, étaient assiégés par les Turcs. Cette grande peur de la Turquie a fait un rapprochement bien après les croisades et ce concile a prôné l'union. Mais elle ne s'est pas matérialisée au retour. Par contre, le patriarche est venu. C'est tout de même important de dire ça, qu'il y a eu toujours des dialogues entre patriarche et pape, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est pas Paul VI, c'est Athénagoras, les premiers. Il y en a eu, par exemple, un concile de Ferrare.
Cela dit, les églises d'Occident et d'Orient ont toujours été en compétition, avec parfois des affrontements sanglants, notamment Constantinople 1204.
Alors c'est la pire période pour l'Église peut-être, le sac de Constantinople par les croisés. Il y a eu des relations très très mauvaises pendant les croisades et puis il y en avait eu avant déjà. Et depuis, disons, quelques siècles, c'est évident que l'Église catholique romaine surtout est beaucoup plus puissante que l'Église orientale, puisque maintenant, pour l'Église orientale, ce sont des églises surtout nationales, avec ce patriarche œcuménique qui est très proche du pape, mais qui gouverne un réseau pas très important.
À la lettre G, G comme grec pontique, étaient-ce les Arméniens des rives du Bosphore?
Pas exactement, mais... s'en était certain, mais c'est une région très très importante qu'on retrouve dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, en Turquie actuelle.
Qui sont les Jacobites à la lettre J?
Alors les Jacobites, c'est un terme qui a été utilisé pour désigner ceux qui ont suivi Jacques Baradaï ou Jacques le Mendiant, qui est un homme qui était contre Constantinople et qui était partisan de ce qu'on peut appeler le monophysisme, qui était en hérésie du point de vue et des catholiques et des orthodoxes. Alors maintenant, on les appelle Syriens orthodoxes ou syro-orthodoxes, et il y a une branche catholique, les Syriens catholiques ou syro-catholiques. C'est une branche donc monophysite, comme les Coptes, comme les Arméniens, et qui est importante en Syrie, qui est importante un peu au Liban et en Irak. Donc, ils sont peut-être 200 000 sur les Jacobites, qui ont suivi Jacques le Baradaï, qui est l'homme qui s'est rebellé contre l'Empire.
Passons à la lettre M, très fournie. Nous avons les Malabars, les Maloncars, les Mandéens, les Maronites, les Maximites, les Melkites, tous chrétiens.
Tous chrétiens, oui.
Et comment ça se passe précisément?
Maximite, par exemple, c'est ceux qui ont suivi Maxime le Confesseur, qui est un très très grand théologien, un peu méconnu, qui est peut-être le plus grand théologien, et qui était totalement fidèle à Rome. Les Maronites, nous savons que ce sont les disciples de Saint Maron, qui était un moine, qui a fondé une communauté, qui a essaimé, qui était toujours été lié à Rome, en tout cas il n'y a que des catholiques.
Et très présent au Liban.
Très présent au Liban, le président de la République, bon, il n'y en a pas actuellement, mais enfin le président de la République est normalement maronite, en tout cas il est chrétien.
Alors ce sont des communautés qui, un peu comme les jésuites ou les franciscains, sont en fait un ordre particulier?
Ah non, c'est pas... Non, il peut y avoir des franciscains chez eux d'ailleurs, mais ce sont des rites surtout, ce sont des rites, le rite maronite qui est un rite antiochien particulier, comme les Syriens catholiques dont nous parlions, les Jacobites, par exemple une messe jacobite, une messe maronite, il y a des différences, mais enfin c'est la même source, hein, c'est Saint-Jacques, voilà. Donc ce sont pas des ordres, ce sont des rites, des églises avec un patriarche, chacune un patriarche. Les Maximites non plus par contre, ça a duré un petit moment.
Alors nous arrivons à la lettre N avec les Nestoriens, et là les Nestoriens c'est très important, c'est une branche importante des chrétiens d'Orient.
Ça a peut-être été même la plus importante, et de loin, puisque au Xe, XIe siècle, c'était l'église la plus importante, avec 150 évêchés jusqu'en Chine, de l'Égypte à la Chine. Ils étaient considérés comme hérétiques par les catholiques, mais c'est ceux qui avaient, au concile d'Éphèse, considéré que, donc, Marie n'était pas la mère de Dieu, qui ont été condamnés, ils avaient suivi Nestorius, ce qui est plus compliqué que ça, mais on va résumer, et ils ont essaimé à partir de Séleucie, c'est-à-dire Bagdad actuel, alors Perse, ils sont essaimés dans tout l'Orient. C'est pour ça qu'on les dit l'église de l'Orient ou l'église de Perse. C'est pour ça que je disais que l'église de Perse était très importante.
Parce que eux-mêmes, les Nestoriens, sont allés évangéliser, par exemple, en Inde et jusqu'en Chine.
En Inde, énormément.
Il y a aujourd'hui des nestoriens
Il y en a, oui, ils ne se disent plus nestoriens parce qu'ils sont en général catholiques, donc ils ont abandonné le nestorianisme. Surtout ceux qui sont réunis à Rome ont abandonné leur hérésie, entre guillemets, mais tout en gardant des rites qui sont liés. Donc, mais il y a des nestoriens, ils ne sont plus nestoriens, mais ces églises nestoriennes sont très très nombreuses dans l'état du Kerala en particulier, au sud-ouest de l'Inde, et également en Chine, il y en a eu beaucoup. Marco Polo, on a rencontré, il y en a eu à la cour, et il y a un de leurs patriarche qui était mongolo-chinois. Donc oui, c'était très très important, mais au fil des siècles, ils sont beaucoup moins importants.
Lettre P, il existe aussi des protestants orientaux.
Il y a beaucoup de protestants en Orient. Il y en a d'abord, c'est un phénomène nouveau. Il y a beaucoup d'évangélisation de protestants dans la langue du pays, parce que tous ces la différence des protestants, c'est qu'ils prennent toujours la langue du pays. Or, les communautés orientales dont nous parlions, elles parlent arménien, elles parlent comme langue liturgique, elles parlent le chaldéen, qui est des nestoriens chaldéens, qui vient d'araméen, ou les Syriens catholiques, les Syriens orthodoxes, ils parlent d'autres langues. Les Coptes parlent liturgiquement copte, même si c'est l'arabe maintenant. Par contre, les protestants, qui sont là tout de même, qui sont venus avec la colonisation, mais depuis longtemps, et qui se sont beaucoup incrustés, disons, comptent peu sur les rites. Pour eux, c'est pas le plus important. Ils ne sont pas ancrés depuis des millénaires comme les autres. Mais petit à petit, ils se sont enracinés. Et en Inde, il y a une église, non pas protestante, mais anglicane, qui a plusieurs millions de personnes et qui, elle, garde le rite oriental.
Donc ça, c'est un héritage de la colonisation britannique.
Les récents sont un héritage. Cette église anglicane dont je vous parle, non. C'est une église ancienne qui s'est tournée vers l'église anglicane, vers la communion anglicane.
Alors nous parlions des rites, et justement, à la lettre R, il est question essentiellement des rites. Est-ce que c'est ça qui fait la diversité des églises d'Orient, les rites ?
C'est très très important, parce que c'est le rite, c'est aussi la langue. Alors les rites, ce sont des messes, enfin des divines liturgies, ce sont des coutumes, c'est-à-dire les messes sont différentes, on est toujours tourné vers l'Orient. Alors en Occident, avec le Concile, nous considérons que les chrétiens catholiques, en tout cas, considèrent qu'il faut que le prêtre s'adresse aux fidèles et que c'est un progrès. Bon, c'est très juste vu d'ici. Vu de là-bas, c'est une régression. Ça peut paraître bizarre, parce qu'au contraire, le prêtre est avec les fidèles, tourné vers Jérusalem, vers l'Orient, et il accompagne. Voilà, donc c'est une sorte de procession. Il y a des rites très importants, il y a des différences pour le baptême, il y a des différences pour les sacrements, même si c'était les mêmes sept sacrements, exactement les mêmes sept sacrements pour tous, bon, sauf les protestants dont nous parlions, mais enfin tous les autres ont sept sacrements, toutes les églises orientales, et il y a des différences pour tous ces rites, pour tous ces sacrements. Il y a des aspects sur lesquels, par exemple, les Arméniens sont plus préoccupés que d'autres, sont plus attachés que d'autres, les Arméniens, les Coptes, c'est très important.
Et est-ce que ce sont ces différences qui font qu'une éventuelle réunification des églises chrétiennes, enfin en tout cas catholiques ou orthodoxes, orientales et occidentales, est impossible ?
Je pense qu'elle est possible. C'est un aspect qui vraiment, normalement, est réglé, puisque dans la sein des églises orientales unifié à Rome, le rite est conservé, moins que le voudraient ces églises. Mais enfin, le rite est conservé. Par exemple, la messe n'est pas la même, il y a plusieurs Notre Père, enfin, il y a des différences. La communion sous les deux espèces, qui chez les catholiques latins n'est pas obligatoire, elle est obligatoire chez les orientaux. Mais ça peut pas faire obstacle, à mon avis, les problèmes sont beaucoup plus, entre guillemets, politique, et surtout l'importance du rôle de Rome et du rôle l'autonomie de ces églises, l'indépendance de ces églises. C'est plutôt ça que des questions de calendrier ou de rite.
Alors les sectes sont logiquement à la lettre S, elles ont joué un grand rôle en Orient.
Un énorme rôle, parce que d'abord, les premiers conciles, ce sont, qu'on dit c'est Constantinople par exemple, se sont faits pour finalement dire que Dieu était en trois personnes. Voilà, c'est ce que tous les chrétiens disent maintenant. C'était pas ce que disait la religion, enfin la religion d'un secte, ou on appelle ça une secte, presque majoritaire, en tout cas très influente à l'époque, les Ariens. Voilà, c'est la plus importante des sectes, qui elle mettait Jésus en dessous de Dieu, qui mettait Jésus comme une personnalité très importante, mais qui n'était pas Dieu. Donc Dieu n'était pas en trois personnes. Et c'est ça que tous ces conciles qui sont communs à toutes ces églises, et je le répète parce que c'est essentiel, et c'est ça qui peut permettre la réunification, toutes ces églises ont refusé l'arianisme, ce qui vit maintenant sous d'autres formes, dans d'autres sectes.
Alors deux entrées encore, les deux dernières, les Yézidis, lettre Y, et les Zoroastriens, lettre Z, deux groupes non chrétiens, mais qui ont toujours entretenu de bons rapports avec ces derniers.
Ben les Yézidis, oui, puisqu'ils ont pareillement souffert, ils ont été d'abord dans des zones, ils ont été voisins, en Irak, en particulier en Irak surtout, enfin les Sinjar, Mossoul, et l'année dernière ils ont vécu en juillet, août, septembre 2014 le véritable martyr ensemble. Les Yézidis ont sans doute plus souffert, puisque les chrétiens ont réussi à partir pour presque tous, et les Yézidis, eux, non, ont été massacrés par l'État islamique, les femmes ont été vendues comme esclaves, les chrétiens ont pu s'échapper pour la plupart, mais c'est pas heureux non plus. Quant aux Zoroastriens, c'est l'ancienne religion perse, hein, dualiste devenue avec un dieu unique, monothéiste, qui subsiste encore. Et les chrétiens ont dû coexister avec les Zoroastriens. Ils le font encore d'ailleurs, même s'ils sont très très minoritaires aujourd'hui. Et c'était aussi une religion du livre, donc acceptée par l'islam et toujours acceptée en Iran. Et ils sont surtout en Inde maintenant.
Alors un mot encore, Jean-Michel Cadieux, tous les chrétiens fêtent-ils Noël ou la Nativité cette semaine, en Orient comme en Occident ?
Non, pas tous, puisque les Arméniens, d'ailleurs tous les Arméniens, le fêtent le 6.
6 janvier.
6 janvier. Les Grecs le fêtent comme nous, le patriarche orthodoxe aussi comme nous, mais certains orthodoxes le fêtent le 7 et les Arméniens le 6 janvier.
Aujourd'hui, les communautés chrétiennes d'Orient sont très très fragilisées.
Elles sont extrêmement fragilisées parce que elles ont eu presque le coup le plus dur de leur histoire, ce fameux mois funeste de juillet août 2014. C'est parce que là, c'est l'État islamique et c'est la première fois qu'on a un régime qui extermine les minorités, dont les chrétiens. Donc, il n'y a aucune possibilité. Il n'y a plus du tout de chrétiens dans des régions où ils étaient là depuis des siècles, comme Mossoul, des millénaires. Donc, ils sont fragilisés, mais ils sont toujours là, ils vivent toujours. Et peut-être que si le problème se résout, c'est une coalition qui réussit, peut-être vont-ils regagner leur foyer dans quelques mois, c'est ce que nous pouvons espérer.
Merci Jean-Michel Cadieux.
Merci.
Ancien journaliste à l'agence France Presse et pour l'hebdomadaire Témoignages chrétiens. Pour digérer ce petit lexique pour comprendre les chrétiens d'Orient, publié aux éditions Eric Bonnier, je vous propose cette mélodie électropop de Yasmine Hamdan avec Samar, un titre extrait de son album Ya Nas. La chanteuse libanaise réussit à trouver un juste équilibre entre énergie douce et mélancolie folk enivrante.
Cool.
Orient Hebdo est réalisé cette semaine par Nicolas Benita. Retrouvez-nous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.